C'est terminé en ce qui concerne la traversée internationale du lac Saint-Jean, 64e édition. Il y a 26 nageurs qui ont pris le départ et c'est l'Italien Eduardo Stocchino qui l'a emporté en à peu près 7 heures. On n'a pas les données exactes pour le moment. Et il y a le Québécois Xavier Desharnais qui a pris le deuxième rang. Ces gens-là ont vraiment toute mon admiration. Je ne ferais pas 20 pieds. Alors, vraiment, bravo. Et bravo aux organisateurs, les bénévoles également, parce que sans eux, c'est impossible de tenir ce genre d'événement. Parlons maintenant de baseball, parce que mardi, ce sera la date limite des transactions, le 31 juillet, dans le baseball majeur. Et j'ai l'impression que les dépisteurs des différentes organisations du baseball majeur sont pas mal occupés ces temps-ci. Et on va en avoir une idée en parlant avec un de ceux-là. C'est notre collaborateur baseball, Alex Agostino. Stino, qu'on rejoint, je pense, à Boston. Salut, Alex.
Salut, Pierre.
Alex, qu'est-ce que ça implique comme travail pour vous? Parce que souvent, il y a des joueurs vedettes qui sont échangés pour des espoirs. Alors, vous êtes évidemment mis à contribution à chaque fois qu'il y a une transaction, vous autres.
Bien, c'est sûr que le DG, lui, ne peut pas voir tout le monde. Il y a un personnel de dépisteurs qu'on appelle assignation spéciale, mm-hmm. que ce soit des gars comme Charlie Manuel, des anciens, des gars comme Pat Gillick qui peuvent être envoyés à la dernière seconde et puis un joueur une dernière minute. On a aussi le personnel professionnel qui, eux, couvrent les majeurs, le 3-2A. Ouais. Nous, du côté amateur, on a notre territoire à couvrir, mais à ce temps-ci d'année, on est envoyé un peu partout dans les mineurs. Au niveau du A et les ligues des recrues, moi, je suis à Lowell présentement, la filiale des Red Sox, où on assure de voir tous les joueurs qui pourraient être échangés, parce que ça fait plus qu'un an qu'ils sont déjà dans le baseball majeur. Puis ça peut être le troisième joueur, le joueur qu'on rajoute quand on fait un échange que les dépisteurs pro n'ont pas la chance de voir parce que ce sont soit trop jeunes ou ils ont été repêchés tout récemment. Et nous, mm-hmm. du côté amateur, on a une meilleure historique sur ces gars-là parce qu'on les a vus les dernières années. Puis souvent, tu fais ce travail-là puis il n'y a rien qui se passe. Mais chaque équipe doit faire son travail jusqu'à la dernière seconde.
Oui, parce que c'est un joueur qui peut faire la différence dans 3 ans, mettons. Tu sais, évidemment, pas tout de suite, mais si le dépisteur a un bon flair, ça peut donner une transaction très avantageuse à son équipe.
Bien, c'est sûr, parce que souvent, tu as des joueurs qui viennent d'être repêchés en première ronde. Si c'est un joueur qui vient de mon territoire, que je l'ai vu jouer au niveau de l'école secondaire il y a 3 ans, puis il vient d'être repêché de l'Université Saint-John, de l'Université de Connecticut, ou de Boston College dans mon territoire, puis il joue encore, bien, j'ai déjà une couple de rapports sur lui dans le passé. Alors, même si tu regardes un joueur qui est repêché par une autre organisation lors de son année de repêchage, tu crées ces liens, tu crées ces connaissances avec ces joueurs-là. Mm-hmm. Tu sais jamais, 3 ans, 5 ans, 7 ans, le joueur devient un agent libre, il a eu une bonne rencontre avec le dépisteur de ton équipe, ou tout simplement, toi, tu l'as toujours aimé, et lorsque vient le temps de faire une transaction, puis ton DG t'appelle, te demande, hey, on a 3 joueurs sur la liste qui nous ont été donnés, on a vu ton rapport dessus, qu'est-ce que t'en penses, c'est quoi qu'est-ce que les impondérables qui peut amener à l'extérieur du terrain, comment qu'il est, toutes sortes de choses que tu dois être au courant, pas juste sa performance sur le terrain, puis d'autres fois, c'est ce qu'on appelle, pas comme au hockey, là, un cross-check, c'est-à-dire le terme de baseball, c'est d'aller, you have to go cross-check, c'est-à-dire tu vas regarder un joueur qui a déjà été écrit par un autre dépisteur, mais on veut des opinions différentes. Okay, parce que
tu veux valider, ouais.
Dépisteur, c'est ça, valider si le même dépisteur donne toujours la même opinion. Mm-hmm. C'est toujours bon d'avoir un œil
différent.
Que quelqu'un l'a jamais vu, exactement.
Ouais, exact. Bon, il y a eu une autre transaction aujourd'hui, un nom qu'on connaît, Mike Moustakas, qui avait été un des premiers choix du repêchage de 2006, si ma mémoire est bonne. Donc, il est passé de Kansas City à Milwaukee. C'est-tu une grosse transaction, ça, Mike Moustakas, ou c'est un gars qui est sur son déclin?
Ben c'est le gars qui est encore, il est égal à lui-même. C'est un gars qui frappe 250, qui embarque sur les sentiers, moyenne de 310, frappe des circuits, 15 à 20, frappe, produit des points. Cette année, il frappe quoi? 249, la même chose. C'est un joueur qui est pas spectaculaire, mais qui peut être efficace. Il a déjà gagné une série mondiale. Un peu surpris que ce soit les Brewers de Milwaukee, qui, eux, vont devoir bouger Travis Shaw, qui est un frappeur de puissance, qui est, soit en passant, le fils de l'ancien releveur des Expos, Jeff Shaw.
Ah,
il va aller jouer au deuxième but, qui n'a jamais évolué cette position dans le baseball professionnel. Puis, quand je parle de Travis Shaw, je l'ai vu évoluer, ce gars-là, à Lowell, au Massachusetts, une couple d'années. Et tu sais jamais, tu sais, il est monté avec les Red Sox, échangé. Et là, on va insérer le vétéran Moustakas. Alors, c'est un petit peu surprenant comme échange, mais tu vois que les équipes, que ce soit les Brewers, tant présentement, on joue aux échecs avec les autres équipes.
Oui, hein?
Les Diamondbacks font un geste. Ah, les Dodgers font un geste, les Phillies font un geste. On est tous en train de se battre pour les séries, là, parce que les équipes sont en train de se positionner. Oui, tu dois te rendre là, mais tu te positionnes pour que Moustakas, qu'est-ce qu'il va nous donner? T'as jamais libre à la fin de l'année, on n'a peut-être pas besoin de lui, c'est une location, on le place là, on a confiance en Travis Shaw. Tu dois connaître ton équipe, parce que là, ça devient une équipe de vétérans à Milwaukee. Ouais. Avec Moustakas, Lorenzo Cain, Christian Yelich qui sont allés chercher, sont dans une vision que c'est pas fait parce qu'il y a les Cubs là-dedans. Alors, tu sais, je dirais pas que c'est un échange de panique, mais c'est un échange qui tente de donner un meilleur rôle offensif aux neuf frappeurs qu'il présente à tous les jours. Puis, écoute, c'est un gars qui a gagné. Puis des fois, les équipes, spécialement les états-majors, aiment ajouter des joueurs de la trempe pour les deux, trois derniers mois, ceux qui ont déjà vécu ces moments-là pour aider les joueurs peut-être qui n'ont pas passé par là dans leur carrière.
Oui, parce que l'expérience, ça n'a pas de prix. Hein?
Exact.
Il y a Manny Machado qui est rendu avec les Dodgers, Jay Happ avec les Yankees, Cole Hamels qui a été échangé cette semaine à Chicago. Est-ce qu'il y a d'autres gros noms là, qui restent peut-être à transiger ou si pas mal tout est placé dans les gros pions qui peuvent être échangés?
Oui, le nom qui fait surface récemment, c'est surprenant, c'est Chris Archer des Rays. Lui qui est sous contrôle encore pour les trois prochaines années, 19, 20 et 21, à une moyenne de 8 millions. Et tu vois que les Rays, eux, demandent le meilleur et monde pour ce joueur-là, mais
avec tu peux aller
chercher un gars comme Chris Archer, peut-être qu'il y a une équipe, on parle des Yankees, on parle des Dodgers, on parle même des Padres qui vont nulle part, mais qui font des échanges pour l'avenir. Archer qui est encore jeune, si tu peux aller chercher ce gars-là, tu sais, ça serait un atout pour une équipe, mais présentement, les Rays veulent pas le quatrième ou le cinquième prospect des équipes, ils veulent le prospect numéro un de chaque équipe. Les Nationals aimeraient bien ça l'avoir, mais ça coûte Victor Robles, qu'on dit, un voltigeur potentiel tout étoile pour les 10 prochaines années. Tu sais, il y a des Fernando Tatis Jr. avec les Padres de San Diego, le fils de l'ancien expo Fernando Tatis. On veut rien savoir de le laisser aller. Alors, là, c'est vraiment jusqu'à la dernière seconde. C'est le nom qui refait surface. Les autres noms sont des noms comme Real Muto, le receveur des Marlins. Même chose, receveur étoile, bon frappeur, jeune. Les Marlins veulent la mer et monde, ces choses-là. Puis ils sont dans une bonne position. Ils ne sont pas obligés de transiger. Puis ils peuvent attendre jusqu'à la dernière seconde pour voir quelle équipe qui peut paniquer. Parce que les Dodgers, tu l'as mentionné, ont bougé. Les Yankees ont bougé. Les Red Sox ont bougé. Mais ces équipes-là, là, à chaque fois qu'ils bougent, ils s'attendent que si un autre de leur adversaire bouge, ils n'ont pas peur de se réajuster et de donner deux, trois très bons prospects parce que les Red Sox et Yankees, c'est pas les Padres ou les Rays où ils peuvent pas se permettre de laisser aller un joueur et rien recevoir en retour.
Exact. Alex, j'ai plein de sujets, puis c'est sûr qu'on va manquer de temps. Alors, je passe au suivant tout de suite. Vladimir Guerrero, évidemment, sera intronisé demain au Temple de Renommée. À tes yeux, est-ce qu'il a été le meilleur expo dans l'histoire de l'équipe?
Ben, statistiquement parlant, je pense qu'il est...
Il est dur à battre.
Est-ce qu'il a-tu été meilleur qu'André Dawson, que Tim Raines, que Gary Carter? Ils sont tous au temple de leur renommée. Disons que pour moi, c'est le meilleur frappeur combiné moyenne et puissance que les Expos ont jamais eu parce que c'est un gars qui a une moyenne en carrière de 315. On a vu pas mal les très bonnes années de la carrière de Vladimir où il avait aussi de la vitesse dans sa game. Défensivement, je dirais pas que ça a été le meilleur. Ça a été le plus flamboyant, avec le bras qui était canon, mais que des fois faisait défaut un petit peu avec ses relais un petit peu hors cible, mais définitivement le meilleur frappeur que l'organisation a eu. Puis les partisans ont été choyés d'avoir un gars de même parce que l'autre chose, c'est avec Vladimir Pierre, c'est qu'à chaque fois qu'il se présentait au parc, il jouait comme un gamin.
Oui,
il se présentait pas, lui, pour jouer, puis il avait mal, il avait si. Il se donnait tout le temps à 100%, même qu'au début, Felipe Alou a dit, il disait, écoute, Vladimir, je sais que tu te donnes à 100%. Les roulants que tu fais au lanceur ou au premier but, t'as pas besoin de t'élancer de toute ta vitesse pour courir au premier but. Parce qu'on quand on joue de même 162 parties, les risques de blessures s'élèvent. On doit être un peu plus intelligent dans notre choix d'intensité.
Ouais.
Dans le baseball d'aujourd'hui, on voit que les gars, ils ont pas besoin de se faire dur deux fois. Ils frappent un roulant à l'arrêt court puis ils courent pas. Ça, j'aime pas ça.
Non.
Mais Vladimir, j'aime mieux prendre un cheval comme Vladimir puis le retenir un peu.
Exact.
Puis tu savais que quand tu payais ton billet, ben, t'allais avoir quelque chose de spectaculaire, même quand il s'élavait dans le vide. Puis moi, j'allais souvent voir les pratiques au bâton parce que des fois, ça en avalait plus le prix que la partie.
Ouais. Et on dit de lui que c'était le meilleur frappeur de mauvais lancer.
sûr et certain. Longs bras, il avait des longs leviers. Souvent, ouais. ces gars-là, c'est beaucoup de retrait au bâton parce que c'est un élan plus long. Ils ont des, qu'on appelle des trous dans l'élan. Lui, non. Son premier circuit à vie dans les majeures, allez voir la vidéo, oui. premier circuit de Vladimir Guerrero contre Mark Waller. Regardez le lanceur, son visage incrédule. Comme, comment il a frappé cette balle? Loin à l'extérieur, bas, sur les lancers, ouais. 6 pouces à l'extérieur de la zone de prise, puis il l'a frappé au champ posé pour un premier circuit d'un majeur.
Ouais, à son troisième match.
Waller n'en revenait pas qu'il était un vétéran lanceur. Alors, c'est ça, c'était, ça prend quelque chose d'être capable de faire contact, puis le son que la balle faisait avec le bâton quand Vladimir frappait à la balle, c'était complètement différent des autres joueurs.
Ouais, puis il a déjà frappé un coup sûr sur un lancer qui avait touché le sol avant qu'il soit frappé. Ça n'avait pas de sens.
Ça, faut le faire. Il a joué souvent au stickball dans sa vie.
Oui, hein. Alex, je vais te parler un petit peu de la, rapidement parce qu'on va manquer de temps à un moment donné, mais les Blue Jays qui vivotent un peu dans l'Est de l'Américaine cette année, puis l'an passé ouais. aussi, là, sont à 23 matchs et demi. On s'entend que c'est pas mal terminé pour eux. Puis ça m'a amené à cette question-là. Est-ce que le fait qu'ils jouent dans la même division que les Yankees puis les Red Sox, avec qui ont des budgets à peu près illimités, les Blue Jays, il y a une grande partie de leur revenu qui est en argent canadien, les droits de télé, entre autres, les ouais. billets, la publicité. Est-ce que c'est pas un désavantage éternel que les Blue Jays vont devoir, avec lequel vont devoir vivre?
Là, 3-4 ans, il n'y avait pas de désavantage. J'étais meilleur que les Red Sox puis les Yankees. Des bons ouais. échanges, du bon développement.
C'est juste un accident, ça?
Ben moi, je dirais que non. Moi, je dirais que ça te force à être meilleur. Ils ont de l'argent de la Ligue. Ils ont de l'argent qui rentre quand même au niveau des revenus de télévision que la Ligue donne. C'est Toronto. Les propriétaires sont pas pauvres. Alors, pour moi, c'est une excuse. Oui, il y a un point là-dedans que tu dois travailler plus fort que les autres, mais si tu développes bien tes joueurs, Toronto, c'est une grande ville. Il n'y a pas grand joueur qui ont joué pour les Blue Jays. Et Jay Happ en est un parfait exemple. Mm-hmm. Qui quitte Toronto en critiquant la ville. C'est une ville des Ligues majeures. C'est un des 5-6 plus gros marchés en Amérique du Nord mm-hmm. en termes de population et de popularité des joueurs de baseball. Les joueurs adorent jouer là. Alors, pour moi, c'est une excuse facile. Oui, il faut que tu te battes contre ces gars-là qui ont potentiellement des limites, mais tu vois que les Yankees et les Red Sox aussi sont en bas au niveau de la masse salariale. Ils ne payent pas de taxes cette année. Sauf que quand ils ont besoin, les Yankees et les Red Sox peuvent aller chercher le joueur qui fait la différence. C'est ça la différence. Mm-hmm. Et les Yankees et les Red Sox peuvent faire plusieurs erreurs, que ce soit Pablo Sandoval, que ce soit un autre joueur, un Cubain, Gusny Castillo, qui est dans les ligues mineures, qui ont donné 70 millions. Et ça, quand même, on met ça de côté, on ferme les livres, on va chercher un autre joueur. À Toronto, tu peux pas te tromper trop souvent. Ou quand tu vas chercher un gars comme David Price, qui est un joueur de location, et tu le perds par la suite, ben ça t'a coûté cher au niveau des mineurs. Mais moi, je dis que ça la valait à peine parce que tu es allé loin dans les séries et tu as amené un buzz incroyable à ta ville.
Ouais, puis l'argent de plus. L'argent de plus que tu as fait en série compense.
Exact. Est-ce que tu veux la dépenser? Est-ce que tu veux t'assurer que tu veux la dépenser? Puis, veux pas, c'est peut-être un ou deux ans et demi d'année de vache maigre. Mais s'ils font les choses de la bonne façon, va chercher un bon personnel de lanceurs. Tu as des joueurs comme Vladimir Junior, Bichette, Beau Bichette, qui peuvent potentiellement faire la différence dans les prochaines années et font faire courir les foules. Puis, tu sais, je veux dire, c'est bien beau de dire, je vais me battre avec les Cleveland de ce monde, les Kansas City, les Cincinnati de ce monde. Non, non. Et dans cette division-là, tu as prouvé que tu as été capable de les battre. Présentement, les Red Sox et les Yankees, je veux pas, ont développé des bons joueurs au niveau des mineurs, ce qui leur permet de faire des échanges et aussi leur permet d'insérer des gars comme Andrew Warr et Gleyber Torres dans les ligues majeures.
C'est tranquillement pas vite, ouais.
Quand les Blue Jays vont être capables d'insérer Bichette et Guerrero, on verra peut-être la différence. Ça sera peut-être pas du jour au lendemain une première position, mais tu vas être au moins compétitif. Ouais. Et à ce moment-là, ben, tu as une opportunité de te battre à tous les jours pour une place dans la série.
OK. Donc, on risque de voir Guerrero probablement avant la fin de la saison à Toronto. Il va se joindre au 3A mardi à Buffalo. Alors
au 3A, ça tout dépend de comment ils veulent jouer avec son temps de jeu au niveau de ce qu'on appelle de son horloge d'agent libre. On peut toujours attendre à l'an prochain lorsque Donaldson sera vu là. On y aura une place pour lui définitivement. Tout dépend si on veut lui donner une opportunité de se mouiller les pieds dans le baseball majeur dès septembre ou l'an prochain.
Alex, merci beaucoup. Bon match à Lowell. Au plaisir de se reparler bientôt.
Merci Pierre, bye bye.
Salut Alex Agostino, notre spécialiste baseball. Et après la pause, on revient sur la défaite des Alouettes et sur Johnny Manziel. On n'a pas le choix. C'est la nouvelle grande vedette à Montréal jusqu'à ce qu'il y en ait une autre. On va parler avec Bruno Eppel au retour de la pause.